Alléluia. Nous allons lire trois textes ce matin. Merci au ministère de louange. Est-ce qu'on peut leur dire merci? Trois textes seront lus ce matin. J'ai omis de donner à Christelle mes textes, donc je vais les répéter quelquefois le temps qu'elle les mette à notre écran. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 au verset 5. Ensuite, Christelle, tu prends note derrière? Parfait, je vais aller à ton rythme et je m'excuse beaucoup de ne pas t'avoir donné. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 au verset 5. Ensuite, nous lirons le psaume 144, le verset 1. Psaume 144, le verset 1. Et nous terminerons avec 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18. Est-ce que les ambassadeurs du royaume de Dieu sont là? Alors, nous commençons avec 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 au verset 5. L'apôtre Paul dit ceci, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Dis à ton voisin, j'ai des armes. Dis à ton voisin, je suis armé et dangereux. Psaume 144, le verset 1. Psaume 144, le verset 1. Nous dit ceci, on pouvons le lire ensemble s'il est devant nous, de David, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Et nous terminons avec 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18, recommandation de l'apôtre Paul. « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. » Quelqu'un dit amen.
Amen.
Ce matin, je m'irai pendant les quelques minutes que le Seigneur nous réserve pour la méditation de la parole, enseigner sur la thématique « Combattre sans blessure inutile ».« Combattre sans blessure inutile ». Le Seigneur nous appelle à porter les armes. Et je vais principalement m'axer sur le premier texte que nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 au verset 5, qu'il est important parce que c'est une des longues lettres que l'apôtre Paul va écrire à une église qu'il avait fondée, l'église de Corinthe, où il y avait plusieurs de ses enfants spirituels qui étaient là. Et Paul, dans la deuxième épître de Corinthiens, est en train de faire une défense de son apostolat parce que les enfants spirituels qu'il avait enfantés, c'était comme des bons adolescents, s'étaient rébellés contre lui. Et ses enfants ne reconnaissaient plus son apostolat et étaient rendus à le comparer avec d'autres personnes. Et l'apôtre Paul écrit pour confirmer aux Corinthiens, pour leur dire que si vous avez plusieurs maîtres dans le Seigneur, vous n'avez qu'un seul Père dans le Seigneur. Et il est important pour les chrétiens aujourd'hui, les enfants de Dieu. Je n'aime pas tellement utiliser le terme chrétien, j'aime mieux utiliser le mot disciple. Parce que même quelqu'un qui ne va pas à l'église, tu lui demandes s'il est chrétien, il dira qu'il est chrétien. Nous avons vu un politicien monter ici devant dire qu'il est chrétien, mais je ne l'ai plus jamais revu. Il est important pour nous de reconnaître qui sont nos pères spirituels. Quand tu ne connais pas ton père spirituel, quand tu ne connais pas la valeur d'un père spirituel, le danger que tu as, c'est de t'éloigner du Seigneur et de suivre toutes sortes de doctrines. Et le rappel de l'apôtre Paul aux Corinthiens, c'est pour dire, vous pouvez avoir plusieurs prédicateurs, même plus éloquents que moi, qui viennent, mais je suis celui qui vous a engendré dans le Seigneur. Je suis celui qui vous nourrit dans le Seigneur. Et pour cela, vous devez reconnaître moi en tant que Père, en tant que la personne qui a mis les fondements dans votre vie. Et dans l'Église, nous avons aussi des gens qui sont des pères. Et être père dans le Seigneur, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de la position que le Seigneur nous a donnée. Quand ça va mal, nous pouvons courir à nos pères, parce que nos pères savent exactement comment nous parler, savent exactement et cherchent toujours notre intérêt. Et dans la section que nous sommes en train de lire ici, l'apôtre Paul ouvre une parenthèse dans le discours qu'il adresse à ces chrétiens qui sont un peu confus, ne sachant pas trop est-ce qu'il faut croire dans Paul qui nous a annoncé l'évangile ou bien il faut croire les nouveaux maîtres que nous avons. Et l'apôtre Paul commence à aborder une thématique importante, c'est la thématique du combat dans lequel le chrétien est engagé. Et l'apôtre Paul va beaucoup utiliser le vocabulaire militaire de l'armée romaine, tel qu'on va le voir aussi dans Éphésiens chapitre 6. L'apôtre Paul va employer ce vocabulaire parce que tout simplement, il avait été prisonnier des Romains pendant un bout de temps à cause de la persécution de l'Évangile. Il avait terminé à Rome, donc il avait eu l'occasion de vivre avec les militaires romains et de tirer des leçons de ce qu'il voyait tous les jours. Et vous savez, parfois, on passe par des situations difficiles, mais vous ne savez pas si votre situation difficile est une leçon que Dieu est en train de préparer pour la prochaine personne que vous allez rencontrer. Dieu va emmener Paul en train de vivre son emprisonnement, de vivre avec les militaires romains, mais cela va lui servir d'écrire les grandes lettres, comme les lettres aux Corinthiens, l'épître aux Éphésiens, où il va pouvoir comprendre dans les réalités visibles, comprendre des réalités invisibles. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez ce matin, mais Dieu peut se servir de ce que tu traverses pour fortifier la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit amen. Dieu peut se servir de la situation que tu traverses pour fortifier la vie de quelqu'un. C'est seulement quand Paul a vécu en intimité proche des soldats romains qu'il pouvait développer ce vocabulaire-là pour montrer la réalité dans laquelle le chrétien est engagé. Et l'église de Corinthe fait face à une réalité, c'est qu'ils ont reçu un message de l'évangile par l'apôtre Paul, un message de fondation qui leur apprend à se confier en Christ, mais quelque part d'autres personnes sont venues avec d'autres doctrines. Et plus tard, l'apôtre Paul écrira dans le livre de Corinthiens au chapitre 11, il dira aux disciples de Corinthe, il dira « Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Satan se déguise en ange de lumière, il dit « Derrière ces gens qui vous annoncent un autre évangile, il y a Satan qui s'est déguisé en ange de lumière. » Non seulement Satan s'est déguisé, mais l'apôtre Paul dit que « Il n'est pas étonnant que même ses ouvriers se déguisent en ange de lumière. » D'où l'important pour le chrétien d'avoir du discernement afin de pouvoir lire entre les lignes, même de quelqu'un qui se présente comme pasteur, que tu ne connais pas, de discerner est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu. Parce que la manifestation peut présenter Dieu, mais l'esprit qui anime la personne n'est pas l'esprit de Dieu. Donc l'important du discernement devient alors capital pour l'enfant de Dieu. Je pense que c'est le texte de 1 Jean qui dit de ne pas croire à tous les esprits, mais de discerner pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un donne une prophétie exacte que la prophétie vient de Dieu. Une prophétie non exacte peut même venir d'un démon. Je veux vous entendre. Je veux vous entendre. Une prophétie même exacte peut venir d'un démon. Quelqu'un peut être animé d'un esprit de divination et te donne une prophétie exacte. Le démon t'a suivi toute la journée. Tu arrives dans la réunion, non, ce matin tu t'es habillé, tu as porté ça. Et puis à midi tu as pris le taxi numéro tant, le soir tu as mangé ça. Oh, c'est vraiment un homme de Dieu. Non, il faut discerner est-ce que cela vient vraiment de Dieu. Il faut discerner dans ton esprit, discerner est-ce que cela vient vraiment de Dieu. Et c'est le problème en fait dans lequel les chrétiens de l'église de Corinthe se sont retrouvés. Mais ce matin, nous voulons parler de combattre sans blessures inutiles. Il y a des blessures que nous subissons dans le combat de la foi. Il y a des blessures que nous subissons que nous ne sommes pas supposés subir, mais nous le subissons simplement parce que nous ne sommes pas nécessairement enseignés. Nous les subissons parce que nous ne sommes pas nécessairement préparés. Amen. Alors, quand on parle de la notion de combat, il y a quatre types de réactions parmi les chrétiens. Le premier type de chrétiens que tu trouves, ou des disciples si on peut employer les termes, ce sont les disciples qui ignorent toute réalité par rapport au combat dans lequel nous sommes engagés. J'aimerais vous dire ce matin que nous sommes engagés dans un combat, que vous le vouliez ou pas. Quand vous avez choisi d'accepter Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, que vous combattiez ou pas, vous êtes engagé dans un combat. Le diable est après toi pour te voler, le diable est après toi pour te tuer, le diable est après toi pour te faire toutes sortes de mal, parce que la Bible dit que le diable ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Voilà pourquoi Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Quand un chrétien ignore la réalité du combat dans lequel il est engagé, il sera simplement comme un déjeuner qu'on sert au diable le matin. Nous avons besoin de prendre conscience que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle qui dépasse nos réalités. Que nous avons besoin de comprendre que cette bataille-là, où nous avons besoin de combattre. Donc la première catégorie des chrétiens que tu trouves, c'est ceux qui ignorent tout de la bataille. Ils n'ont jamais été enseignés. Ils croient que quand ils ont quitté l'Afrique, ils ont laissé le diable là-bas. J'aimerais vous dire que le diable est très présent ici. J'aimerais vous dire que le diable opère autant au Canada qu'il opère en Afrique. Et nous devons avoir conscience de la réalité dans laquelle nous sommes engagés. Quelqu'un dit amen. Amen. La deuxième catégorie des chrétiens maintenant, ce sont ceux qui ne veulent pas s'engager. Ils savent que nous sommes dans un combat. Ils savent que nous sommes engagés dans un combat, puisque Paul dit que si nous marchons par la chair, ça ne veut pas dire que nous marchons par le péché, mais nous marchons dans un corps humain. Nous ne combattons pas dans un corps humain. Le type d'armes que nous employons, ce sont des armes spirituelles adaptées au combat. Le deuxième type de chrétiens que tu croises aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui disent « Je ne dérange pas le diable et il ne me dérange pas. » Et un jour, j'ai même entendu un pasteur le dire du haut de la chair. Il dit « Moi, je ne dérange pas le diable, il ne me dérange pas. » C'est ce qu'on appelle les gens qui font le ministère facile. Ils veulent présenter un évangile sans combat. On ne peut pas présenter l'évangile sans combat. Est-ce que vous êtes dans ce cas ce matin où vous dites, moi, je ne dérange pas le diable. Je vis ma petite vie tranquille. Je ne veux jamais prier. Je ne veux jamais prendre autorité. Je ne veux jamais rien faire qui va déranger le diable. Je reste tranquille dans mon coin. Et le diable, il ne va pas me déranger. Je vais te dire ce matin que le diable est après toi. Le diable est après pour te détruire. Le diable est après pour détruire ta famille, pour détruire tes enfants. Et à moins que tu ne prennes tes armes, toute ta vie, toute ta famille sera détruite. Et ce qui est terrible, c'est que quand le diable va le faire, il va le maquiller comme si ce sont des événements naturels. Alors que derrière les événements naturels, il y a la main de l'ennemi qui essaie de te détruire. Il y a la main de l'ennemi qui essaie de détruire ta famille. Et il faut que ce matin, tu prends conscience du danger que tu cours d'ignorer un ennemi. Le danger des chrétiens qui ont immigré du sud vers le nord, c'est que quand ils étaient encore dans leur pays, ils étaient bouillants parce qu'ils avaient conscience que si je ne fais rien, la nuit, quelqu'un peut me visiter dans ma chambre. Mais aujourd'hui, celui que tu penses qui te visite dans ta chambre, il est là, dans le même bureau que toi, il porte une cravate. Et à cause de ça, tu dis, ben, le diable, je ne le dérange pas. Si je ne prie pas, si je ne me consacre pas à Dieu, ben, je veux vivre une vie chrétienne tranquille. C'est une folie. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens. Vous êtes fous si vous pensez que vous pouvez vivre une vie chrétienne sans vous sanctifier, sans vivre proprement, vous ne dérangez pas le diable, vous êtes à l'aise d'aller partout où vous pouvez, dans tous les concerts du monde, dans des bars, dans des discothèques, en disant que je vis une vie chrétienne tranquille, je ne dérange pas le diable, je ne me présenterai qu'une seule fois à l'église et c'est correct pour moi. Je veux te dire que tu es en danger Satan est prêt pour détruire ta vie. Tu as besoin de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Je vois des parents disent, je m'en vais à l'église, je laisse mes enfants à la maison, l'église est trop pour eux. Satan est prêt pour détruire ta vie, pour détruire la vie de tes enfants. Et à moins qu'en tant que parent, tu ne mettes tes genoux à terre de façon régulière, il est prêt pour détruire tes enfants. Personne ne peut dire, je ne dérange pas le diable, il ne me dérange pas. J'aimerais te dire que le diable est après toi pour détruire ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. La troisième catégorie des chrétiens que tu trouves dans une église, est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont les chrétiens de la cinquième colonne. Dis à quel ton voisin la cinquième colonne. Les chrétiens de la cinquième colonne, ce sont des chrétiens qui sont dans l'église, qui connaissent la réalité du monde spirituel, qui connaissent la réalité du combat dans lequel nous sommes engagés. Mais ce sont des chrétiens de la cinquième colonne. Pour l'illustrer, je vais vous donner une petite histoire. Un jour, on raconte dans l'histoire de la Chine qu'un grand général était parti pour envahir une ville. Et le général arrive devant la ville était imprenable, la ville était barricadée. Et le général arrive, puis il plante juste sa tente devant, puis il reste tranquille. Là, au bout d'un certain temps, ses amis et les autres généraux lui disent « Mais mon général, la ville est imprenable, comment est-ce que vous allez faire pour que nous puissions prendre la ville ?» Le général dit « Ne t'inquiète pas, ma cinquième colonne est déjà dans la ville, elle va ouvrir les portes. » Et là, il s'assied devant la ville, il est très tranquille. Au bout d'un certain temps, la ville s'ouvre. Et le général a pu entrer et prendre la ville. La cinquième colonne, c'est des gens qui sont dans l'église et qui collaborent avec l'ennemi. Ils sont des enfants de Dieu, mais de façon directe ou indirecte, ils collaborent avec le diable. C'est des chrétiens conscients du combat. Mais quelque part, parce qu'ils ont été mécontents d'une situation, ils ont été mécontents de quelque chose dans l'église, ils commencent à murmurer. Et quand ils murmurent, ils ouvrent les portes de la ville. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Parce qu'ils étaient mécontents, ils commencent à murmurer. Quand les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, commencent à faire du colportage, ils travaillent pour l'ennemi en fait. Et le danger avec les murmures, les colportages, lorsque nous les emmenons, c'est que tu t'auto-justifies. Je dis ça simplement pour, je dis ça par rapport à. Mais si tu regardes derrière les murmures, les colportages que nous emmenons souvent, tu vas remarquer, soit il y a la jalousie, il y a une blessure qui n'a pas été correctement cicatrisée. Tu vas regarder derrière ça, c'est le mécontentement qui n'a pas été traité. Et tu travailles, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu ouvres la porte à l'ennemi. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu es de la cinquième colonne, tu peux encore changer de camp. La cinquième colonne, c'est ceux qui sont assis dans la salle, qui chantent les mêmes cantiques. Mais, quelque part, à cause d'un mécontentement, ils sont en train de faire un travail au lieu de bâtir l'église, au lieu de se bâtir eux-mêmes. Ils sont juste en train de tout casser. La cinquième colonne, ce sont ces gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui pendant les cultes sont en train de faire des trucs pour bloquer le service. La cinquième colonne, ce sont ces gens qui s'insèrent dans les ministères, qui en apparence semblent être des enfants de Dieu, mais en réalité, ils font du vaudou. En réalité, ils travaillent, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont assis et leur but dans l'église, c'est de monter en responsabilité pour avoir un poste clé et pour bloquer le système, la cinquième colonne. Ils semblent en apparence être avec nous, en réalité, ils ne travaillent pas avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es dans l'église, tu es en train de faire des séances occultes, si tu es dans l'église, tu es en train de travailler dans le camp de l'ennemi, j'aimerais te dire que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu est un feu dévorant et on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Tu finiras par tomber. Qu'importe les puissances qui t'animent, tu finiras par tomber parce que la Bible dit que celui que tu sers a été vaincu à la croix. La Bible dit que celui qui est en nous, est-ce que j'ai des enfants de Dieu ce matin? La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un peut donner une ovation au roi des rois ce matin? Et vous voyez, et ils sont là, et quand tu, si tu n'as pas de discernement, tu ne pourras jamais vraiment détecter quelqu'un de la cinquième colonne. Parce que, en apparence, il a tout comme nous, il chante comme nous, il danse comme nous, mais de temps en temps, il tourne un peu sa langue pour faire son petit truc, de temps en temps. Et si tu ne peux pas le voir spirituellement, un jour, si tu n'as pas de discernement, la Bible dit que Jésus est monté sur la montagne après une nuit de prière. Il a nommé les apôtres. Ce n'était pas par son intellect, mais c'était après un temps dans la présence de Dieu. Il pouvait les discerner, il pouvait les voir spirituellement. Ils n'ont pas été nommés parce qu'ils étaient les plus intelligents. Ils n'ont pas été nommés parce qu'ils avaient des connexions. Ils ont été nommés parce que spirituellement, ils pouvaient les scanner. Spirituellement, ils les connaissaient. Spirituellement, ils pouvaient les lire. Ils pouvaient les discerner. C'est alors qu'ils ont été nommés. C'est dangereux dans une église de nommer des gens responsables que tu ne connais pas spirituellement parce que tu risques de nommer des gens de la cinquième colonne et tu t'étonnes que l'église ne va pas de l'avant, tu t'étonnes que les ministères sont paralysés. C'est les gens de la cinquième colonne qui sont en train de briser le système. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Les gens de la cinquième colonne, leur but dans le système, c'est de grimper juste à se retrouver à côté du pasteur, à côté des responsables. Et si l'homme de Dieu n'est pas prudent, si l'homme de Dieu aime être flatté, il sera pris par la flatterie. Si l'homme de Dieu aime l'argent, il sera piégé par l'argent. Si l'homme de Dieu aime trop le sexe, il sera piégé par le sexe. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Et soyez simples comme des colombes, afin que si on te donne, on t'a donné. Si on ne te donne pas, tu ne dépends pas des gens. Sinon, les gens de la cinquième colonne vont discerner quelle est la porte d'entrée dans ta vie. Les gens de la cinquième colonne travaillent. Et vous allez voir, soudain, l'église est en train de tomber et on ne comprend pas pourquoi. Quand tu détectes quelqu'un de la cinquième colonne, ne fais pas une réunion des anciens, enlève-le tout de suite. La Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Vaut mieux l'enlever. Avoir des problèmes avec les hommes, que tu l'as découvert, tu le laisses et tu as des problèmes avec Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. La troisième catégorie des gens dans l'église, c'est les gens de la cinquième colonne. Ils connaissent la réalité. Et dans la cinquième colonne, il y a deux catégories. Les chrétiens blessés, les chrétiens qui se sont fait mal, les chrétiens mécontents. Tu arrives là, on a fait des nominations à l'église, on ne t'a pas nommé. Alors, tu fais du café chez toi, tu réunis les gens. Vraiment, je ne comprends pas. Hein. Tu fais tout, on te donne un ministère, tu sabotes. Tu es en train de travailler pour le diable. Et ce qui est triste, c'est que tu penses que tu fais la volonté de Dieu. Et au plus tu t'entêtes dedans, c'est qu'il y a un ange de Satan qui vient maintenant et qui te fait croire que tu fais la volonté de Dieu, alors que ça fait longtemps que tu t'es éloigné de la présence de Dieu, alors que ça fait longtemps que tu t'es éloigné de ce que Dieu voulait pour toi. Si tu as été blessé quelque part, bien aimé, à tout moment, on nous sommes dans un combat violent, tu seras blessé, j'ai été blessé, mais laisse le Seigneur te guérir. La deuxième catégorie des gens de la cinquième colonne, c'est ceux qui se disent frères et qui ne sont pas frères. Et parce que les chrétiens n'ont pas de discernement, l'un des éléments simples du discernement, ce n'est pas pour voir ce que tu veux voir, mais c'est voir ce qui est. Quand tu es assis avec un frère qui te décourage d'aller à une réunion, il travaille pour la cinquième colonne. Quelqu'un qui te dit, oh, toi, dans l'église, mais tu travailles pour le pasteur. Il travaille pour la cinquième colonne. Il n'a pas compris que quand nous travaillons pour Dieu. Quand nous donnons pour Dieu. Quand nous nous investissons pour Dieu. Même quand la personne qui gère les finances est malhonnête, Dieu le traitera pour lui. Mais je bénis Dieu pour les ouvriers dans l'église qui sont fidèles.
Je bénis Dieu pour les vrais ouvriers que nous avons. Je bénis Dieu pour ceux qui travaillent dans les finances, qui parfois ont les serrés financièrement et doivent faire des miracles pour qu'on puisse y arriver. Je bénis Dieu pour les hommes fidèles, les hommes au protocole, les hommes qui travaillent dans tous les niveaux de l'église, ceux qui travaillent les côtés et qui veulent vraiment qu'on aille de l'avant. Ceux qui sont les véritables enfants de Dieu, est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'acclamation ce matin? La quatrième catégorie des chrétiens que tu trouves dans la maison de Dieu, est-ce que ça vous bénit ce matin?
Amen.
Ce sont ceux qui sont les véritables enfants de Dieu et qui ont compris la réalité du combat dans lequel nous sommes et qui sont engagés dedans. Tel que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 8, la recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon la prophétie faite à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Si tu peux dire à ton voisin, nous sommes dans un combat.
Nous sommes dans un combat.
Dis à ton voisin, nous sommes dans un combat.
Nous sommes
engagés dans un combat contre une société qui ne veut pas que l'Église existe. Nous sommes engagés dans un combat contre des forces des ténèbres. Bien aimé, les démons existent. Les sorciers existent et ils opèrent. J'aimerais vous dire qu'ils opèrent à l'extérieur de l'Église. Et quand dans l'Église on n'est pas prudent, ils opèrent aussi dans l'Église. Quelqu'un dit
amen.
Ils opèrent dans l'Église, ils opèrent à l'extérieur. J'aimerais vous dire de ne pas croire à toute manifestation, mais de sonder avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un vient dire, je suis baptisé du Saint-Esprit, pas en langue, dis ça, me parler en langue. Est-ce que ça vient de Dieu? C'est l'engagement dans cette bataille-là dans laquelle tu es ce matin. Que tu veuilles être chez toi, prier ou ne pas prier, que tu le veuilles ou pas, nous sommes engagés dans une bataille spirituelle. Non seulement pour l'Église, non seulement pour l'avancement du royaume de Dieu, mais à partir du moment où tu as accepté Christ dans ta vie, tu as déclaré une bataille contre le diable. Colossiens chapitre 1, le verset 12 dit, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons le pardon et la rédemption des péchés. » Amen. Et la Bible dit qu'il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Nous sommes dans une bataille. Et la question ce matin, dans quel camp tu es ce matin? Dans quel camp tu es? Es-tu dans le camp de Dieu? Es-tu dans le camp du royaume de Dieu? Es-tu dans le camp de ceux qui attendent la venue du Seigneur? Es-tu dans le camp de ceux qui veulent voir le royaume de Dieu avancer? Ou es-tu simplement dans l'autre camp? Tu chantes avec nous, tu danses avec nous, tu fais beaucoup de choses, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu travailles de façon directe ou indirecte avec le monde des ténèbres. Le Seigneur a besoin de te délivrer ce matin. Alors, il y a cette cause des blessures inutiles que j'aimerais vous présenter ce matin. Cette cause des blessures inutiles. Parce que, vous voyez, quand on est de la quatrième catégorie des enfants de Dieu, qu'on est engagé dans une bataille spirituelle, c'est que le truc du diable, c'est de nous emmener à être blessés. Parce qu'un soldat blessé sur le champ de bataille ne peut plus combattre. J'aimerais ce matin encourager nos frères, encourager mes frères et sœurs, surtout ceux qui ont immigré ici au Québec. Regarde 20 ans en arrière avant que tu migres, comment tu étais bouillant pour Dieu. Aujourd'hui, même une prière de 5 minutes, on s'endort. Bon, peut-être moi, pas vous. Aujourd'hui, prier, on n'a plus le temps. L'ennemi nous distrait tellement avec beaucoup de choses. Et la vie de prière, beaucoup de chrétiens sont juste éteints spirituellement. Et on ne va pas seulement se fier au cantique le dimanche parce que les gens chantent, les gens poussent des cris de joie. Parfois, c'est des cris de joie, mais toute la semaine, tu n'as pas prié, tu n'as pas lu ta Bible. Toute la semaine, et on est tellement des chrétiens qui sont devenus anorexiques spirituellement. Nous avons la mécanique, mais il n'y a plus d'huile dans le moteur. Nous avons besoin de ce matin reconnecter avec Dieu, avoir une vie de prière régulière et une vie de la lecture de la parole de Dieu. C'est ce qui fait un chrétien fort. Un chrétien fort, ce n'est pas le vocabulaire, c'est la lecture de la parole, c'est la prière. Il y a un homme de Dieu qui prêchait, Renard Bonquet, disait que le chrétien a deux jambes, la lecture, la prière. La lecture, la prière.
Alors personne ne peut avancer avec une jambe. Tu as besoin d'avoir les deux jambes de la foi, qui sont la lecture et la prière. La première cause des blessures inutiles dans lesquelles le diable va piéger beaucoup de chrétiens, c'est de s'engager dans un combat inutile. S'engager dans un combat inutile. Voilà pourquoi dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 et 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, Paul va répéter deux fois à Timothée, dit « combat le bon combat ». Donc s'il y a un bon combat, c'est qu'il y a un mauvais combat. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais combat ? Premièrement, ça peut être un combat qui ne vous a pas été destiné. Je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste devait venir pour préparer la venue du Seigneur. Donc quel était son combat ? Préparer la venue. Jean-Baptiste s'engage dans un combat inutile, c'est d'aller voir Hérode et de lui dire « La femme avec qui tu vis, ce n'est pas ta femme » et de le condamner. Il a perdu sa tête. Une blessure inutile. Tu peux être un homme de Dieu ou un, mais le piège du diable, c'est de t'emmener dans des batailles inutiles dans lesquelles tu seras blessé inutilement. Et Paul, dans la sagesse, dit à Timothée, fais attention dans les batailles que tu choisis. Il y a des combats qui sont utiles, il y a des combats qui sont inutiles. Frère, il y a des choses comme ça que j'ai appris dans le mariage. Il y a des choses que tu laisses aller. Amen. Il y a des choses que tu dis, ça c'est un combat inutile, je vais perdre mon mariage ici. Vaut mieux hein, que je ramasse mon assiette moi-même, au lieu de dire non, tu es la femme, faut que tu... Non, ramasse ton assiette, tu vas perdre ton mariage pour rien, tu t'engages dans un combat inutile. Il y a des combats inutiles dans lesquels parfois tu t'engages et tu risques même de perdre ton emploi, de perdre ton mariage, de perdre ta vie parce que c'est un combat inutile que l'ennemi a juste mis devant toi et tu es engagé dedans. Le deuxième type de combat inutile, c'est un combat pour lequel vous n'avez pas été préparé. Dis à ton voisin un combat pour lequel tu n'as pas été préparé. Il y a des choses dans la marche chrétienne que Dieu vous donne étape par étape. Il y a des autorités dans la marche chrétienne que Dieu vous donne étape par étape. La Bible nous raconte dans le livre des Actes que les fils de Sévan, ce prêtre-là, sont partis voir un démoniaque. N'est-ce pas ? Et ils lui ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, sors des monts. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible dit, est-ce que le nom de Jésus est puissant ? Est-ce que le nom de Jésus est puissant ? Est-ce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit ? Mais comment ça se fait que les démons ne sont pas sortis ? Un combat inutile. La Bible dit que les démons ont répondu, parce que les démons parlent. Jésus, je connais, il a l'autorité. Paul, je connais, il est arrivé à ce niveau d'autorité. Mais toi, je ne te connais pas, je ne vous connais pas. Et la Bible dit que même quand ils ont cité le nom de Jésus, le démon les a taillés en pièces, ils sont partis tout nus. Alors vous imaginez, vous êtes assis au centre-ville de Montréal, vous voyez deux bonhommes passer tout nus en courant. Pourquoi ? Ils viennent de faire une délivrance ratée. Je me vais prévenir les frères et sœurs qui essayent dans leur maison de faire des délivrances. Êtes-vous vraiment équipés pour ce que vous essayez de commencer ? J'aimerais parler des gens qui essaient de faire des délivrances, de commencer des mouvements, des cellules dans leur maison. Mais peut-être que tu penses que c'est facile quand tu vois le pasteur ici devant. Mais ce que tu dois comprendre, c'est mon travail. Je prêche quand j'ai envie et je prêche quand je n'ai pas envie. C'est mon travail. Vendredi, j'étais en train de prêcher. Hier, j'ai prêché. Là, je prêche maintenant. À 14h, je dois encore prêcher. Je ne prêche plus parce que c'est amusant, parce que les gens tapent les mains. C'est mon travail. Je suis investi de cette autorité. Est-ce que parfois, des blessures que nous avons dans la marche chrétienne, c'est parce que nous nous engageons dans des combats qui ne nous sont pas destinés et pour lesquels nous ne sommes pas prêts? J'ai eu à faire face à un cas. J'ai commencé le cas. À un moment donné, j'ai eu du discernement. J'ai dit, bon, j'arrête le cas, j'écris au pasteur, j'ai dit, pour ce cas ici, ça prend toi. Amen. Moi, j'ai essayé, amen, mais je vois comment le cas va, ça prend que toi, quand tu vas venir, en tant qu'autorité de la maison, amen, tu puisses intervenir.
La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens subissent des blessures inutiles, ce sont des combats inutiles sous la forme de combats pour lesquels ils n'ont pas été préparés. Tu t'en vas quelque part, vous êtes en train de prier, tu n'as pas été autorisé, tu n'as pas été établi, tu commences à imposer les mains aux gens. Sauf que lui, il a un esprit qui est plus fort que toi. Donc au lieu que lui tombe, toi tu tombes. Quand tu imposes les mains, il y a une transmission dans les deux sens. Donc tu es mieux d'être plus fort. Parce que si tu n'es pas fort, c'est lui qui te transfère ce qu'il a. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi je mets en garde tous les ministres exorcistes, tous les gens qui aiment des ministères dans le coin. Je vais te donner une prophétie dans le coin. Donne la prophétie devant mon pasteur. Donne la prophétie devant l'église. Laisse que l'assemblée discerne si c'est vraiment Dieu qui a parlé. Les ministères des coulisses, c'est les ministères dans lesquels plusieurs subissent des blessures inutiles. La troisième type de blessures liées au combat inutile, est-ce que ça vous aide ce matin?
Amen.
Troisième type de blessures liées au combat inutile. Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Ça veut dire que dans la marche chrétienne, il y a des pièges que l'ennemi nous tend. Amen. Le troisième type de combat inutile dans lequel les chrétiens subissent des blessures inutiles, c'est des pièges dont le but est de nous épuiser. Il y a de cela près de 20 ans, nous étions dans une réunion et à chaque fois qu'on commençait les réunions, les démons se manifestaient soudainement. Frères, soyez méfiants des réunions où on a entonné un chant, les démons se manifestent. Soyez très méfiants. Ça ne veut pas dire que Dieu est derrière. Les démons se manifestent et nous sommes en train de prier. Et soudainement, au lieu d'adorer Dieu, nous arrêtons la réunion et nous commençons à prendre autorité. Au nom de Jésus, sors. Mais bizarrement, de toutes les personnes qui manifestaient, il n'y en a aucun esprit qui est sorti. Nous prenons autorité. Nous sommes habitués à prendre autorité, les démons sortent. À la fin de la réunion, une sœur qui avait le discernement nous amène la parole de Dieu. Il dit, comment est-ce que vous avez laissé l'ennemi vous distraire? Au lieu de me donner l'adoration, vous vous êtes concentré à mettre le diable au premier plan. En d'autres termes, pendant la réunion, nous nous étions juste épuisés. Épuisés simplement à crier. Parfois, le diable mettra devant vous des choses, des situations qui sont des pièges inutiles. Tu regardes ça, tu dis non, ça je laisse, ça j'abandonne. Ça c'est quelque chose qui va juste m'épuiser. Tu es là, tu es fort spirituellement. Quelqu'un t'appelle au téléphone, tu pries pour la même situation, vous raccrochez. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Non, la cinquième fois, tu dis frère, appelle-le. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. C'est ce qu'on appelle les bouffes ministères. Quelqu'un qui t'épouse juste spirituellement. Et Satan sait que tu es animé d'un bon cœur. Donc il colle juste quelqu'un à côté de toi. Et toi tu dis, oh vraiment mon ministère marche. J'ai quelques personnes qui m'appellent. Voilà, maintenant le Seigneur est en train de m'éteindre. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est derrière ça? Même quand les gens viennent et disent, oh tu es vraiment un serviteur de Dieu. Il faut discerner qui parle de la part de Dieu et qui ne parle pas de la part de Dieu. 1 Samuel chapitre 23, le verset 4. La Bible dit, David consulta l'Éternel et l'Éternel lui dit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David est dans une situation où il est pressé. Il est pressé de tous bords. Sa vie est en danger. Et les Philistins, quelque part, Saül le court après pour le tuer. Et de l'autre côté, les Philistins ont envahi la ville de Keïla. Et David se pose la question. Regardez, il y a un combat devant lui. David, est-ce que c'est un homme expérimenté? Est-ce que c'est un homme de bataille? C'est le même David qui a tué Goliath. C'est le même David qui a fait des exploits. C'est le même David pour lequel on pouvait chanter. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Mais face à un combat qui surgit, il recule d'abord. Il consulte Dieu. Il ne dit pas je m'engage seulement parce que j'ai la puissance dans le nom de Jésus. Tu peux t'engager si tu as la puissance dans le nom de Jésus. Mais si le combat n'est pas pour toi, tu vas échouer. Tu vas t'épuiser. Et l'ennemi t'aura à l'épuisement. Et c'est pour cela que tu vois beaucoup de gens qui avaient des ministères de délivrance. Tu les vois pendant 5 ans. Tu les vois plus. Tout d'un coup, ils ont disparu. Tu ne les entends plus. Tu ne les entends plus. Parce qu'à un moment donné, c'est que à force de lutter sans jamais consulter Dieu, tu t'engages à un moment donné dans un combat inutile. David consulte Dieu. 1 Samuel chapitre 30, le verset 8. La Bible dit encore que David consulta l'Éternel. 1 Samuel chapitre 30, le verset 8. David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis car tu atteindras et tu délivreras. » Ça, c'est la scène où David est à Tsiglag. On a pris sa femme, on a pris ses enfants, on a pris les femmes et les enfants de tout le monde qui était avec lui. Et David est dans une grande détresse parce que les hommes qui sont avec lui parlent de le lapider. Le combat est devant lui. Mais avant de s'engager, David consulte Dieu. Ce qui nous produit des blessures inutiles, c'est que nous nous engageons trop vite. Nous fonçons tête baissée. Et le diable le sait, il te piège, et toi tu fonces la tête baissée, soit tu t'en vas là-bas pour être épuisé, tu t'en vas là-bas simplement pour finir mal. Mais le but de Dieu, c'est que tu connaisses les pièges que l'ennemi te tend. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Le deuxième type de blessure inutile que les chrétiens subissent, c'est parce que c'est des blessures dues au fait que ils sont mal armés pour le combat. Éphésiens chapitre 6, quand l'apôtre Paul parle des armes spirituelles, il dit « Prenez quelques armes de Dieu ». C'est ça? C'est ça? Oui, non? Il dit « Prenez toutes les armes de Dieu ». Ne prenez pas les armes qui vous intéressent, ne prenez pas les armes pour lesquelles vous avez de l'expérience, mais prenez toutes les armes de Dieu afin de résister. La résistance n'est que possible si on prend toutes les armes de Dieu. Et donc, tu as une partie des chrétiens, bien qu'ils sont conscients de la réalité spirituelle, qui prennent une partie des armes, ou encore une fois, c'est des chrétiens qui sont dans le combat spirituel, mais qui veulent combattre avec des armes charnel. L'apôtre Paul dit, si nous marchons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles parler ne suffit pas. Il faut utiliser les armes de la prière.
Amen.
Il y a des situations dans lesquelles je suis rentré dans un cas de délivrance à un moment donné, et puis le démon a commencé à se manifester. J'espère que je ne vous fais pas peur ce matin. Le démon a commencé à se manifester, comme on dit chez nous, il est retourné tout mouka. Et puis, je voyais des gens très agités. À un moment donné, j'ai entendu quelqu'un dire au démon, je vais te gifler. Hein. Il dit, frère, tu es dans un combat spirituel, tu veux utiliser des armes charnelles. En réalité, c'est que tu peux voir quelqu'un qui est tout petit comme ça. Mais si l'esprit se manifeste, frère, si tu n'es pas assis dans le Seigneur, on va vous taper. Donc, on t'a déjà tapé, tu sors de ton corps. Toi-même, tu admires la frappe. Oh là là là, ça c'est magnifique. Je ne pouvais pas imaginer qu'on peut me taper comme ça. Et c'est ça que tu vois. C'est que tu as, une première catégorie de chrétiens qui prennent une partie des armes. Donc, la deuxième catégorie de blessures, c'est des chrétiens mal armés pour le combat. Soit parce qu'ils prennent une partie des armes. Donc, le Seigneur a dit de prendre le casque, l'épée, le bouclier, la cuirasse. Mais ils disent, non, moi, je n'ai pas besoin du bouclier. Je n'ai pas besoin du bouclier de la foi. J'ai juste besoin de la cuirasse de la justice. Je suis un chrétien qui croit que je suis sauvé par la foi. J'attends que Jésus revienne. Alors, je n'ai pas besoin des chaussures du gel de l'évangile. Je n'ai pas besoin du casque du salut. Donc, toutes les pensées qui traversent, je les pense. Toutes les pensées, à ma tête, donc il n'y a aucun système de sécurité. Tout ce qui passe, je le pense. Donc, s'il faut penser au meurtre, je pense au meurtre. N'importe quel film qui passe à la télé, je le regarde. Tu as des chrétiens qui vont dire, je n'ai pas besoin de la foi, j'ai mon travail du 9 à 5, ça me suffit, mon travail est garanti, je suis syndiqué, de toute façon, on me mettra pas dehors. D'accord, mais qu'est-ce que tu feras quand le cancer viendra? As-tu bâti ta foi pendant que le cancer n'était pas là, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours? Et c'est ce qui arrive, tu as des chrétiens comme ça. Et maintenant, tu as la deuxième catégorie des chrétiens qui
sont des chrétiens qui ont des âmes charnelles.
C'est des chrétiens très intellectuels. Tout est intellectuel. Tout est réfléchi.
Donc ils sont programmés, crois-tu? Même quand tu le regardes, quand ils prient dans une réunion, tu sens qu'il y a comme une mort. Tranquille. Tu sais, quand tu regardes dans les films d'horreur, là, c'est comme il y a comme une fumée qui sort.
Il prie, mais tu sens qu'il y a la mort. Alors qu'un enfant de Dieu véritable, quand il prie, il ne crie même pas. Le ciel s'ouvre au-dessus de lui. Les chrétiens, très intellectuels.
La troisième sous-catégorie de celles-là, ce sont des chrétiens qui sont des chrétiens mal armés, qui utilisent par ignorance les armes des ténèbres.
L'apôtre Paul parle d'utiliser les armes de lumière, mais qui par ignorance? Pourquoi?
Parce qu'il est parti dans une réunion, il a vu un homme de Dieu, qui s'est dit un homme de Dieu, entre guillemets, qui a fait des choses d'une certaine manière. Frère, je n'ai jamais vu Jésus faire une délivrance et donner le micro à un démon pour que le démon parle.
Je n'ai jamais vu ça. La Bible dit que Jésus ne leur permettait pas de parler.
Donc, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est populaire que tout ce qu'il fait est correct. Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Quelqu'un dit Amen.
Amen.
Et tu entends un homme de Dieu qui va te prêcher. Il dit, moi, quand je prie, je sors de mon corps. Je m'en vais en Asie. Toi aussi, tu utilises ça. Tu veux prier pour sortir de ton corps. Ceux qui sortent, c'est les sorciers.
Amen.
Tenons-nous à ce que la parole de Dieu nous dit. Je sors à volonté. Je m'en vais me promener. Non, 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 reste dans ton corps. Si tu n'en avais pas besoin, Dieu ne t'aurait pas donné encore. Et toi, tu entends ça. Tu rentres, maintenant tu veux prier, c'est par ignorance. Et un ange des ténèbres commence à te souffler des choses et tu veux commencer à les appliquer. La troisième catégorie des blessures inutiles. Êtes-vous avec moi ce matin? C'est confondre l'ennemi pour un allié. C'est comme ça qu'on est blessé inutilement. La Bible nous dit que Paul était en train de marcher dans la ville d'Éphèse. Et soudainement, il y avait une servante du temple animée d'un esprit de Python qui marchait et qui a commencé à crier « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus pour vous annoncer la voie du salut. »
Imagine, tu es un jeune prédicateur, on dit ça. Tu as ta première campagne d'évangélisation. Même ta démarche change. Soudainement, tu as des gardes du corps. Soudainement, tu commences à regarder les gens comme ça. Mais l'apôtre Paul s'est dit que cet homme, cette voix qui crie, l'information est correcte, mais la source est polluée. Beaucoup de chrétiens sont blessés dans le combat spirituel parce qu'ils confondent l'ennemi pour un allié. Et la Bible nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14 à 15, c'est que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc ce qui veut dire que même parfois, certaines visions que tu as, Satan peut te les donner si tu n'es pas prudent.
J'ai rêvé cette nuit, j'ai vu le pasteur entrer dans ma chambre, il avait des cornes, le pasteur est sorcier.
Non, tu n'as pas discerné qui, quelle est la source de ce rêve-là.
Et l'apôtre Paul dit que non seulement les ouvriers de Satan se déguisent, mais aussi Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et beaucoup de chrétiens tombent dans des blessures inutiles parce qu'ils confondent l'ennemi ou la voix de l'ennemi pour un allié. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Alléluia » que tu dois le rentrer dans ton intimité spirituelle. Tous les rêves ne sont pas bons à dire à tout le monde. Quelqu'un m'a posé une question cette semaine, je lui ai dit « Qu'est-ce que ton discernement te dit ?» Il dit « Oui, pasteur, tu as raison. » Je dis « Qu'est-ce que ton discernement te dit ?» Ton discernement automatiquement se déclenche quand il y a une anomalie. Tu ne peux pas mettre la main sur la situation, mais tu peux sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et j'ai dit toujours aux gens, il ne faut pas essayer de voir ce que tu veux voir, voir les choses telles qu'elles sont. Un serpent est un serpent. Donc même s'il est rose, tu l'as mis une robe Barbie, c'est un serpent. Les gens tombent dans des blessures inutiles, ils confondent l'ennemi pour un allié par manque de discernement, par distraction et par orgueil spirituel. Par orgueil spirituel. Simplement que moi, je n'ai rien à apprendre de personne.
Frère, même parfois tu dis, j'ai vu un ange. D'abord, quand je vois un chrétien qui me dit, j'ai vu un ange, moi ça ne m'étonne pas. Un ange, c'est ton serviteur. Maintenant tu as vu ton serviteur, tu es impressionné.
Combien d'entre nous ont appuyé, Seigneur, je veux voir un ange.
Mais c'est ton serviteur.
Quelqu'un dit Amen.
Quand tu vois un ange, ça ne change rien à ta foi, ça ne change rien. Mais à force de vouloir chercher des manifestations surnaturelles, tu risques à un moment donné qu'il y ait une interférence. Maintenant, c'est un ange des ténèbres qui te donne ces manifestations-là. Tu prends l'ennemi pour un ami.
À un moment donné, Ézéchias est guéri de sa maladie. L'ennemi vient pour le féliciter. Regardez, au départ, tout va bien. L'ennemi vient, « Oh, tu as été guéri par Dieu. » Et Ézéchias baisse sa garde et il ouvre toute la maison et il montre tout. Le prophète Isaïe vient le voir et dit, « Qui étaient ces gens ?»« Oh non, c'est des Assyriens, ils sont venus. » Il dit, « Mais qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison ?» Je leur ai tout montré. Le prophète lui dit, « De la même façon que tu leur as montré là, tu as ouvert une porte par laquelle l'ennemi reviendra. » Nous marchons ensemble dans le Seigneur, mais parfois, il faut avoir une certaine zone de prudence pour ne pas prendre l'ennemi pour un allié. Quelqu'un acclame le Seigneur. Je t'ai rendu à combien? 6 déjà? 6. 3. Bon, on est tous perdus, c'est pas grave. Donc, après avoir parlé de confondre l'ennemi, le troisième, la source suivante des blessures inutiles, dépendamment où vous êtes rendu, ce n'est pas suivre les instructions. Simplement parce qu'un chrétien est désobéissant, il s'expose à des blessures inutiles. Est-ce que vous me comprenez? Et cela va souvent arriver, tu vas voir un frère, une sœur, très zélé, animé de bonne volonté, il va décider, peut-être chez lui, il va commencer une cellule de prière, et puis le pasteur vient te dire, je pense que tu devrais arrêter pour un temps, tu devrais peut-être ralentir. Oh, on peut le bloquer ici. Mais frère, le pasteur peut discerner que tu as la bonne volonté, mais spirituellement, tu n'es pas prêt. Est-ce que vous me comprenez? Il y a, en 1994, j'ai commencé à prêcher. J'ai ouvert une cellule de prière dans mon école secondaire. Je suis parti au cégep, j'ai ouvert une cellule de prière. Gros mouvement de réveil, des délivrances au cégep. Imagine-toi, un jour je faisais une délivrance et puis dans la salle à côté, il donnait un cours. Donc je disais au démon, chut, sors. Et puis la délivrance s'est faite. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci. À un moment donné, dans tout mon zèle, le pasteur m'a dit, si tu veux aller loin, il faut que pendant un temps tu t'arrêtes, viens sous moi. Et au début, j'étais fâché parce que tout allait bien. Je pouvais marcher dans une rangée et les gens tombaient. J'avais le zèle, j'avais la peine, mais je n'avais pas acquis l'expérience du ministère, parfois, de gérer des situations complexes. Donc, parfois, tu as l'onction, mais tu n'es pas mature. Et quand tu n'es pas mature, tu vois vraiment une sœur qui vient en jupe, allez, boum, tombe, boum, mais elle est en jupe. Et juste par respect de l'être humain, tu ne peux pas faire ça. J'ai la puissance, tu as la puissance, mais tu n'as pas la sagesse, c'est que tu es fou. Est-ce que vous me comprenez? Et pendant un temps, j'ai vu des gens avancer dans le ministère et j'avais l'impression que je suis en arrière. Mais aujourd'hui, quand je regarde tout le bagage que j'ai pu acquérir, et quand le Seigneur a commencé à me propulser dans la francophonie, quand je regarde les différents projets qui sont en train de se mettre en place, heureusement que j'ai écouté les instructions. Parfois, tu peux être très qualifié dans l'église. Le poste qu'on t'a donné est moins que ce que tu vaux. Reste, accepte d'abord le poste. Amen, amen. Tu sais, c'est quand tu acceptes le poste, si ce n'est pas ta place, la Bible dit que l'onction brise le joug. L'endroit là, il sera trop petit pour toi. Littéralement, c'est que quand ce n'est pas ta place, même si on t'a mis là, parce que tu as obéi et parce que tu as l'appel de Dieu, tout ce que tu touches, la vie va commencer à venir. Tout ce que tu touches, la vie va commencer à venir. Et beaucoup de chrétiens qui auraient dû aller loin avec Dieu à cause du manque d'écoute d'instruction n'ont pas été loin. L'ennemi les a piégés. Israël arrive au bord du pays promis. Ils arrivent à Jéricho. Quelle grande victoire! Ils ont simplement crié. Les murailles sont tombées. Mais soudainement, ils arrivent face à Haï, un endroit où ils auraient pu avoir une victoire facile. Ils ont échoué. Pourquoi? Quelqu'un n'a pas écouté les instructions. Quelqu'un n'a pas écouté les instructions. Je voudrais terminer cet après-midi en citant un dernier élément pour lequel les chrétiens ont des blessures inutiles. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont des blessures inutiles, ils sont zélés pour le Seigneur. Ils veulent avancer avec le Seigneur. Mais les blessures inutiles sont dues aussi parce qu'ils ne savent pas manier leurs armes spirituelles. Et il faut à un moment donné que tu saches manier le bouclier de la foi. Il faut à un moment donné que tu saches utiliser ta cuirasse de justice. Il faut à un moment donné que tu utilises le casque du salut. Le casque du salut, tu l'utilises à un moment donné, c'est que tu es assis et l'ennemi commence à te bombarder. Tu n'étais jamais assis à un moment donné, il n'y a rien qui est arrivé. Et puis soudainement, un ancien péché que tu avais commis te revient. Comme de nulle part. Et toi, tu es assis, tu commences à méditer dessus. Vraiment, vraiment, on n'était pas à tel endroit. Non. Quand tu es un chrétien assis, à un moment donné, ton casque du salut, là, commence à te dire que mes pensées sont en Christ. Seigneur, je renouvelle mes pensées en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je renouvelle mes pensées en Christ. Selon Romains chapitre 12, le verset 1. Beaucoup de chrétiens ont des armes, mais les balles de l'ennemi arrivent. Ils ne savent pas manier leurs armes spirituelles. Ils sont juste paralysés. Quelqu'un me disait, après l'enseignement de vendredi passé, après le discernement, il dit, bon, en fait, tu nous as dit comment il faut réagir. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es juste bombardé? Tu es juste assis soudainement comme ça, bien dans ton salon. Tu as dit, non, je veux me discipliner. Et puis tu dis, je ne boirai plus de coke. Et tu as une envie de coke bizarre qui t'arrive à minuit.
Oui.
Bizarre, des envies bizarres qui t'arrivent. Et tu ne sais pas discerner, tu ne sais pas quoi faire. Oui, tu connais tes armes, mais tu ne sais pas comment les appliquer, comment les manier. Voilà pourquoi, bien que tu as les armes, les balles arrivent, tu es debout. Tu reçois des balles de la part de l'ennemi, mais il faut que tu viennes aux enseignements qu'on fait afin qu'on t'apprenne comment manier l'épée. J'ai raconté le vendredi, lors de notre nuit de noces. On était dans la chambre, on était couché, et puis vers 2h du matin, un esprit est entré dans la chambre, et il a commencé à nous écraser. Vous savez, on était dans les belles Laurentides où on pense que c'est innocent. Ouais. Commencé à nous écraser, et puis j'étais couché. J'ai dit, oh mon ami, tu t'es vraiment trompé des personnes. Vraiment là, vraiment tu t'es trompé. En une minute, je pense qu'ils avaient cité 25 versets pour contrecarrer cette attaque-là. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui s'élève en condamnation, je la condamne dans le nom de Jésus. Je condamne cette attaque et je commande à cette force de se retourner au centuple contre ceux qui les envoient au nom de Jésus. Je commande aux anges de Dieu d'entourer ce lieu où je me tiens, car je suis le moindre de Dieu. Il faut savoir manier tes armes. Parce qu'avoir une voiture sans clé, ça sert à quoi? Il faut marcher à pied. Comme on dit, prendre l'autobus, c'est intelligent. Et beaucoup de chrétiens subissent des blessures inutiles parce qu'ils ne savent pas manier leurs armes ou parce qu'ils n'entretiennent même pas leurs armes. Tu as subi un combat, mais ton bouclier n'a pas été poli, ton bouclier n'a pas été entretenu. Tu as besoin de te lever et d'apprendre à manier tes armes, parce que je vais le dire à chacun d'entre vous cet après-midi, que le diable est après toi, le diable est après ta vie, le diable est après tes finances. Et à moins que tu aies du discernement, tu vas avoir des blessures inutiles. Mais la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur? Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur?